Et c'est l'heure de l'instant M.
Lost for life, et passez donc un bon week-end après ce message d'optimisme forcené. Salut Augustin, à lundi.
Vous savez que Lust, c'est Lust, L-U-S-T.
Hein, ah, et pas Lost, c'est-à-dire qu'on n'est pas perdu pour la vie.
Non, mais vous êtes en train de remettre en question ma prononciation en anglais.
Très bien.
Je prends bien. À lundi.
Ciao.
Amis téléspectateurs, bon, j'ai entendu ça aux infos.
Les sociaux, les infos. Il est 9h41 sur France Inter, dernier instant M de la semaine.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Plus d'un milliard d'euros pour diffuser durant 3 ans l'intégralité des matchs de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Coup de tonnerre hier. Ni Canal+, ni beIN Sport, mais SFR Sport, qui avait déjà raflé, souvenez-vous-en, le championnat anglais. Qu'est-ce que ça change pour vous tous qui aimez le ballon rond à la télé et qui n'êtes pas abonnés à SFR pour ce qui est du téléphone ou de l'internet? Jusqu'où ira le chéquier dont dispose SFR pour s'imposer sur le marché et affaiblir ses concurrents? Question à Alain Veil, bonjour.
Bonjour.
Soyez le bienvenu, vous êtes patron de SFR Média, c'est-à-dire l'homme qui préside à la destinée des chaînes SFR, mais aussi de l'Express, Libé, BFM, RMC numéro 23, etc. Un seul hashtag ce matin, hashtag Instant M.
L'Instant M, tous les médias sont sur France Inter.
RMC, QG Bourdin 2017.
Il est 8h36, Stéphane Le Foll est avec nous. Stéphane Le Foll, bonjour.
Bonjour.
Ex-porte-parole du gouvernement, ex-ministre de l'Agriculture depuis hier. Hein.
Depuis hier soir, oui.
Voilà, c'est terminé.
C'est terminé, on est bien sur France Inter. Ce matin, Alain Veil, vous êtes donc également le patron de RMC, qui vient à peine de dépasser Europe 1 d'une courte tête, mais vous en avez quand même fait un énorme coup de com', 100 000 auditeurs de plus. Et voici qu'est officialisée l'arrivée chez eux de Patrick Cohen et de deux de nos dirigeants qui vont renouveler la grille de fond en comble. Vous comptez riposter ou résister? Comment?
C'est normal qu'on soit réjoui d'abord du fait que RMC ait doublé Europe 1,
oui.
Parce que c'était tout juste inimaginable il y a quelques années. Quand j'étais enfant, que j'écoutais Radio Monte Carlo, c'était la radio du Sud qui était considérée un peu ringarde. Moi, je l'ai reprise au fond du trou il y a plus de 15 ans. Elle faisait 1,8% de part d'audience. Tout le monde se moquait de nous. Même il y a 15 ans, je n'imaginais pas qu'on arriverait un jour à doubler Europe 1. Donc c'est normal qu'on ait fait part de notre contentement, de notre fierté. Et voilà, et après, on ne souhaite pas du tout qu'Europe 1 aille mal, c'est pas du tout le sujet.
Bah là, Europe 1 va se muscler très sérieusement, donc vous comptez résister ou riposter comment?
Bah écoutez, en bougeant, en prenant des initiatives. Le problème, aujourd'hui, il n'est pas chez nous, il est chez eux. Après, nous, on est toujours extrêmement vigilants, aucune situation n'est définitivement acquise, notre place, il va falloir la défendre, il faut travailler, il faut trouver des idées, et on y travaille très activement.
Alors, dans l'actualité des médias, Alain Veil, je vous propose de jeter un œil à ce qui se passe chez Vivendi, la maison mère de Canal+, indépendamment du foot. Hier, Vivendi a lancé le rachat de Havas. Pour simplifier vraiment les choses, les deux groupes sont en gros contrôlés par Vincent Bolloré, hein, qui l'avait déjà laissé entendre ce mariage dès l'année dernière. Donc, au sein d'une même entreprise, on trouvera donc toutes les activités télé, cinéma et web de Canal+, ainsi que les activités publicitaires de Havas, dont la très puissante agence d'achat d'espace publicitaire Havas Media. La pub, c'est ce qui fait vivre vos journaux. Alain Veil, c'est ce qui fait vivre vos radios et vos chaînes de télévision. Mais c'est ce qui fait vivre aussi les journaux de Vincent Bolloré, ses chaînes de télé, C8, ses stars, etc. Comment est-ce que vous prenez la chose? Est-ce que vous avez peur qu'une agence média intégrée à un groupe média favorise justement les revenus publicitaires de ces médias-ci?
D'abord, c'est pas une surprise. C'était annoncé depuis longtemps par le groupe Vivendi qu'il y aurait un rapprochement entre Havas, filiale du groupe Bolloré, et Vivendi, qui est aussi une filiale du groupe Bolloré. Il y avait déjà des liens très forts entre les médias de Vincent Bolloré et puis l'agence Havas. On le voit bien dans les relations commerciales. Donc aujourd'hui, c'est encore renforcé.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les médias du groupe Bolloré étaient déjà privilégiés?
Bon, en tout cas, ils sont pas maltraités. J'imagine que les annonceurs, ils trouvent leur compte, puisque c'est transparent, c'est sur la place publique. Mais voilà, aujourd'hui, la relation est encore plus forte, donc il faut être vigilant. Il faut savoir que ce qui se passe chez Vivendi, dans d'autres pays, est interdit. C'est-à-dire qu'on peut pas à la fois avoir des médias et à la fois être agence de publicité. Chez nous, c'est possible. Les règles sont moins claires. Donc il faut que tout le monde soit prudent, vigilant. Et le groupe Bolloré, le premier d'ailleurs, parce que c'est sa réputation auprès de ses clients, qui serait mis en cause si ne respectait pas un certain nombre de règles déontologiques. Donc on verra.
Qu'attendez-vous à la veille du nouveau président de la République ? Emmanuel Macron va continuer à parler de publicité. Vous vous plaidez pour une certaine déréglementation. Vous voulez par exemple que les bandes-annonces de films puissent être diffusées sur vos antennes dans des encarts publicitaires, ce qui est interdit pour le moment. Vous pensez que les choses vont s'assouplir ?
Moi, ce que j'attends du nouveau président de la République, c'est de la fraîcheur. C'est-à-dire qu'on ouvre un peu les fenêtres, qu'il y ait de l'air frais qui rentre. C'est vrai qu'il y a des règles dans notre pays, on ne sait même plus pourquoi elles existent. Le sujet auquel vous faites allusion, c'est le fait que le secteur du cinéma n'a pas le droit de faire de publicité à la télévision. Et quand on pose la question de savoir mais pourquoi, finalement on n'arrive plus à avoir de réponse.
C'est-à-dire que ces règles sont tellement anciennes. C'est pour faire en sorte que des petites productions qui n'ont pas les moyens de s'acheter des campagnes de pub sur BFM, par exemple, soient pas totalement écrabouillées par les blockbusters américains qui, eux, ont largement les moyens financiers.
Voilà, sauf que la situation a totalement changé. C'est-à-dire que cette règle, on peut imaginer qu'elle était acceptable à l'époque où il n'y avait que TF1 et M6 qui faisaient qu'effectivement seuls les grands studios américains auraient eu accès à la télévision. Aujourd'hui, il y a des chaînes comme BFM TV. Une campagne de pub sur BFM TV de quelques jours pour promouvoir un film, c'est moins de 50 000 euros. C'est-à-dire que n'importe quel petit film, au contraire, peut avoir accès à la télévision. BFM TV, c'est 10 millions de téléspectateurs par jour, c'est un média très puissant.
Ça veut dire que vous voudriez la même chose pour les livres, par exemple ?
Mais bien sûr, parce que le monde a changé. Et je suis sûr que si
Carrefour,
demain...
Pour que Carrefour, Leclerc, etc. puissent faire des opérations de promo en télé ?
Mais aussi pour que des éditeurs plus petits fassent des opérations. On veut toujours créer des règles pour protéger les petits. Et finalement, les petits en France, ils se portent moins bien que dans les autres pays.
Mais ça, c'est marrant, Alain Veil, parce qu'on a l'impression que votre discours en matière de réglementation change en fonction de vos intérêts. Parce que, écoutez, par exemple, quand le CSA a autorisé LCI à passer en clair, vous avez dit, oulalalalala, catastrophe, le marché publicitaire est trop petit pour qu'on se le partage. Il faut plus de réglementation, il faut pas que l'État laisse faire, il faut contrôler tout ça, etc. Et en fait, ça dépend.
Eh bien non, vous pouvez reprendre tout ce que j'ai dit depuis 15 ans. Mmh. Je crois que je suis toujours extrêmement cohérent. J'ai du mal à défendre des intérêts de mon entreprise par principe. Mmh. J'ai des principes généraux. Je suis plus à l'aise à les défendre que défendre des intérêts particuliers. Donc j'essaie de faire en sorte que nos intérêts respectent l'intérêt général. Dans l'affaire LCI, il ne s'agissait pas du tout de défendre uniquement notre entreprise pour défendre notre entreprise. Simplement, ça mettait en danger BFM TV, le fait qu'il y ait des chaînes d'information supplémentaires qui appartiennent à des grands groupes qui étaient déjà très puissants. Je pense tout à fait la même chose. Si j'ai vendu mon groupe, c'est à cause de ça. C'est que j'ai considéré que finalement, en France, on préférait encourager les gros que permettre aux indépendants de se développer. Et je me suis dit, vaut mieux me rapprocher d'un groupe de télécom qui est l'avenir de
la
télévision.
Qui appartient à Patrick Drahi, donc vous avez vendu BFM et RMC à Patrick Drahi.
Je ne change pas du tout d'avis en fonction de mes intérêts particuliers à un moment.
Et au final, vous qui étiez si inquiet du passage en clair de LCI et de la création de France TV Info, au final, celui qui vous a fait le cadeau inespéré, c'est Vincent Bolloré, en laissant durer la grève de iTélé pendant un mois, qui a mis par terre votre principal concurrent ?
Ce qu'on avait prédit est arrivé.
C'est-à-dire
que le paysage des chaînes d'information est bouleversé. Mmh. Il se trouve que
parce
nous, on s'en est
grève,
bien tiré. Mais il y a une chaîne d'information qui a quasiment disparu. Il y a 100 journalistes qui sont partis. Mmh. Donc oui, il y a bien eu un séisme dans les chaînes d'information. C'est vrai que nous, on n'a été pas du tout touchés parce qu'on a, au contraire, utilisé la période pour investir encore plus, pour creuser l'écart en termes de moyens par rapport aux nouveaux entrants et par rapport à iTélé qui était notre concurrent direct à l'époque. Mais on peut considérer qu'aujourd'hui, rien n'est définitif, mais notre principal concurrent, il a tout simplement baissé le rideau. Donc oui, le paysage des chaînes d'information était totalement transformé avec l'arrivée de deux chaînes. Ouais. Est-ce que le pluralisme a gagné ? Moi, je ne crois pas. TF1 est encore plus fort. Est-ce que LCI, qui est une bonne chaîne, est très différente de BFM TV ? Je ne crois pas. Yves Calvi, qui était sur le numéro 5, est passé sur le numéro 26. Est-ce que c'est une innovation extraordinaire ? D'ailleurs, même il va repartir pour aller sur le numéro 4. Donc, vous voyez, je ne suis pas sûr que le paysage soit tellement enrichi de l'arrivée de deux chaînes bien faites et sérieuses.
Allez, une petite respiration à la veille. Le vendredi matin, c'est une tradition dans cette émission. On joue. Alors, c'est les auditeurs qui jouent. Hein. Vous n'avez pas le droit de jouer. On secoue tous nos souvenirs de télé et de radio en partenariat avec l'INA, qui vous offre d'ailleurs ce matin un très beau CD tiré de leurs archives. 10 entretiens de Louis Aragon, un document sonore très rare. Soyez le premier à répondre. L'instant M à radiofrance.com. Quelle est cette émission où l'on accueillit un jour ce grognard que fut le professeur Choron ?
Je dis que ces gens-là n'ont rien à dire. Pourquoi tu les invites?
Parce que tout le monde a le droit de parler, même ceux qui n'ont rien à dire.
Pourquoi tu invites des lycéens? C'est des merdeux.
Alors, il faut
des
inviter trous quoi
du cul. Des cons.
Merci sûrement. Bon, allez.
Alors, écoute, excuse-moi. J'espère que la caméra est sur moi. Bon.
Voilà, quelle est cette émission où l'on accueillit un jour le professeur Choron, l'Instant M, à radiofrance.com. Bonne chance à vous tous.
L'Instant M sur France Inter.
C'est parti pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. C'est parti pour ce PSG-Barça que l'on espère historique. Pour cela, il faut que le PSG fasse tomber le monument, ce jeune Paris Saint-Germain. Et pourquoi pas?
Est-ce que vous confirmez les chiffres, Alain Veil, 370 millions d'euros par saison, 1 milliard d'euros au total pour pouvoir diffuser l'intégralité des matchs de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa?
Oui, les chiffres qui ont été publiés me paraissent assez proches de la réalité, oui.
Assez proches de la réalité. Soyons très concrets pour nos auditeurs qui aiment le foot à la télé et qui se demandent comment voir PSG-Barça, dont on vient d'entendre un extrait. Est-ce qu'il faut leur changer leur abonnement de téléphone et internet à la maison? Oui, vous en avez tout intérêt, mais concrètement?
Écoutez, les choses sont aujourd'hui très différentes d'il y a quelques années. Demain, pour regarder les matchs de la Champions League, ça sera très facile. C'est dans plus d'un an, hein. C'est en septembre 2018. Et donc, oui, si vous êtes abonné SFR fixe ou mobile, vous pourrez regarder les matchs sur votre téléviseur, y compris si vous êtes abonné mobile. Mm-hmm. Parce que vous aurez accès à travers l'OTT aujourd'hui, à travers la télé connectée, à des applications que vous pourrez activer si vous êtes abonné au mobile. Bon, si vous n'êtes pas abonné à SFR, il y aura des applications en OTT, c'est-à-dire over the top, toujours avec la télévision connectée, qui est en train d'exploser en France et partout dans le monde, finalement, qui rendra très facile l'accès aux chaînes du groupe SFR, et notamment SFR Sport.
Alors, on l'a bien vu quand même avec les résultats du premier trimestre, hein, la rentabilité des SFR a baissé, le nombre de vos abonnés également. Est-ce que vous vous êtes fixé un seuil pour que ces opérations qui coûtent extrêmement cher deviennent intéressantes, enfin recréer une dynamique dans l'autre sens?
Le groupe Altice, d'abord, auquel appartient SFR, oui. va très bien.
Le groupe Altice va très bien. Moi, je vous parle de SFR. Mais
c'est pas évident, parce qu'il y a quelques années, quand on a acheté Cablevision aux États-Unis, on était très critiqués. Finalement, cette entreprise marche remarquablement bien. Au Portugal, ça marche remarquablement bien. Et en France, le marché est plus difficile. On a repris une entreprise qui n'était pas en très très bonne santé. Mais vous savez, c'est quand même une entreprise qui dégage une marge de 30%. C'est pas le sujet principal, mais on a trouvé une entreprise dans laquelle il y avait eu beaucoup de sous-investissements pendant longtemps. Aujourd'hui, on investit énormément dans le réseau, et donc il n'y a pas de secret. On investit dans le contenu, on investit dans le réseau. Donc aujourd'hui, les choses vont mieux qu'il y a quelques semaines. On est reparti dans la croissance. Le résultat d'exploitation peut être en baisse parce qu'on investit, notamment dans les contenus.
Oui, oui.
Mais la rentabilité, elle est de près de 30%. Donc c'est une entreprise qui va bien, qui est solide, qui n'a pas d'inquiétude et qui est très confiante dans l'avenir. Michel Combes, Michel Paulin qui dirige SFR font un travail extrêmement efficace, assez remarquable. Et moi, j'ai une confiance totale dans le fait que SFR, qui va déjà mieux qu'il y a un an, qui a un très beau réseau aujourd'hui, un des plus beaux réseaux 4G, retrouvera des résultats remarquables dans
quelques
mois.
Alors, indépendamment de SFR, où verra-t-on les matchs de la Ligue des Champions? Où les verra-t-on, notamment la finale, qui se doit, hein, c'est des dispositions réglementaires, d'être diffusée en clair sur numéro 23?
Écoutez, on verra d'abord cette finale, elle sera dans plus de 2 ans.
Oui.
Donc on a un peu de temps.
Oui.
Donc elle pourra être sur une grande chaîne historique, elle pourra être sur une chaîne gratuite de SFR Média. Numéro 23 ne nous appartient pas aujourd'hui. Il y a un processus de changement de contrôle qui est en cours. Franchement, dire qu'elle sera sur une chaîne gratuite,
oui,
accessible à tous
une
les Français.
Une grande chaîne historique, c'est-à-dire, exemple?
On verra. Aujourd'hui, encore une fois, c'est dans plus de 2 ans. On pourra discuter avec toute chaîne qui sera intéressée pour diffuser la finale de la Champions League.
Donc sur TF1, par exemple?
pourquoi pas, ou sur le service public, ou sur M6, ou sur une de nos chaînes.
D'accord.
Aucune règle n'a encore été
arrêtée. Les matchs
arrêtés.
De la Ligue des Champions, c'est un très très gros événement en télé. Il faut que ce soit porté à l'antenne de manière très forte, assez spectaculaire. Est-ce que vous allez changer vos studios? Est-ce que vous allez recruter des journalistes sportifs?
Vous savez que je dirige toujours le groupe Next Radio TV, oui, auquel appartient BFM, oui, et RMC. RMC, c'est la radio du sport. C'est aussi Next Radio, la société qui fabrique BFM Sport, mm-hmm, SFR Sport. Donc on a aujourd'hui beaucoup d'expérience. On diffuse la première ligue anglaise et d'autres grands événements dans le basket, la boxe, le ski, etc. Donc on est tout à fait prêt pour produire un événement extraordinaire que sera la Champions League. On va aussi déménager bientôt, dans quelques mois, dans un nouveau site qui sera le site de la convergence entre les télécoms et les médias.
Donc avoir des studios un petit peu plus conséquents.
On aura des studios.
Mais vous allez recruter des voix. Vous allez recruter des voix et des visages.
On aura une dream team qui sera encore élargie. Elle est déjà très riche, mais évidemment avec ces nouveaux événements, on va encore l'enrichir et on va innover aussi dans la façon de couvrir ces événements tout à fait exceptionnels. On regarde déjà tout ce qui se passe dans le monde, dans l'univers du football, notamment en Grande-Bretagne, notamment en Espagne, notamment
en Italie.
Alors,
en Grande-Bretagne, où évidemment c'est ça qui devient le maître étalon en ce moment en Europe, c'est BT, ex-British Telecom, qui a déboursé 1,4 milliard pour ravir les droits de la Ligue des Champions. Donc, manifestement, Canal+ n'avait pas forcément eu la clairvoyance de voir où allait arriver le marché français, mais c'est exactement là où vous le faites advenir, hein, puisque vous êtes aussi un opérateur télécom et que vous vous alignez sur ces tarifs. Donc en gros, c'est ce qui est en train de se passer dans toute l'Europe, Alain Veil.
Oui, le monde des télécoms et le monde des médias convergent. C'était l'analyse que fait Patrick Drahi depuis longtemps. C'est celle que j'ai faite aussi il y a 2 ans quand on s'est rencontrés et qui a conduit à ce que Next Radio rejoigne le groupe Altis, et c'est vrai qu'en France et Altis dans les autres pays où le groupe est présent, souhaite être l'opérateur de la convergence, c'est-à-dire qu'il propose à la fois une offre télécom et une offre de médias, une offre de contenu exclusif dans le domaine du sport ou dans le domaine du cinéma ou des séries.
On va rester sur le sport aujourd'hui. À partir de l'année prochaine, ça va arriver très très vite. Hein. La Ligue de football professionnel va remettre en jeu, en tout cas va commencer à remettre en jeu les droits du championnat de France. Vous allez y aller ?
Écoutez, on regardera. Hein. C'est encore tôt pour savoir. Vous avez raison de dire que ça vient très vite.
C'est encore 800 millions d'euros supplémentaires aussi.
On verra. Si on le fait, c'est parce que c'est bon pour l'entreprise et c'est utile. Vous savez, aux États-Unis, les opérateurs télécoms, notamment ceux du câble, investissent 25% de leur chiffre d'affaires dans le contenu. On a ces chiffres-là en tête. On en est très très loin en France. Le modèle change. Donc il y a deux façons de voir les choses. C'est-à-dire comme ça se passait avant. Et puis, finalement, on prend moins de risques, on ne parle pas de vous. Soit vous insufflez de nouvelles habitudes, vous faites changer le marché, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. On parle beaucoup de vous, c'est parfois moins confortable dans l'instant, mais on a la vision et on sait que c'est cette direction qui est la bonne pour notre groupe.
Est-ce que le frein, en fait, c'est que vos chaînes SFR Sport s'appellent SFR et qu'elles ne soient pas aujourd'hui visibles sur une box Orange, Bouygues, Free? Est-ce qu'elles pourraient changer de nom pour pouvoir être distribuées ailleurs?
Alors, d'abord, les clients de nos concurrents Free, Bouygues, Orange auront demain accès à nos chaînes via la télévision connectée.
D'accord, mais indépendamment de ça.
Parce que c'est en train de bouger. Nous, on a déjà proposé aujourd'hui à nos concurrents de distribuer SFR Sport. C'est vrai que ça tique souvent sur la marque.
Bah oui.
Ça va.
Je suis Orange, j'ai pas tellement envie d'avoir SFR chez moi.
Mais ça va bouger. D'abord, on a regardé que ça avait bougé dans les autres pays. Les téléspectateurs, alors je crois que ça leur est un peu égal d'aller chercher la chaîne sur Internet, sur leur téléviseur, ou que leur opérateur leur propose directement. Les choses vont changer. Vous verrez que nos concurrents y créeront aussi des chaînes demain. OCS, la chaîne de cinéma, ça veut dire Orange Cinéma Service. Donc, on n'est finalement pas les premiers. Et là, avec le programme aussi fort que nous avons, ça va être difficile pour nos concurrents de résister à l'idée de distribuer cette chaîne. Alors, c'est un peu difficile à l'idée de montrer une marque concurrente, mais les choses vont évoluer et vous verrez que ça ne sera plus une discussion ni un problème dans quelques mois.
Dans quelques mois.
Oui.
Merci beaucoup Alain Veil.
Merci à vous.
Bonjour Ali Réveillé.
Bonjour Sonia De Villers. Quel rapport entretenez-vous avec votre voix? 01 45 24 7000.
Quel beau sujet pour des gens de radio.